Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Accalmie signalée ce mardi matin dans la région de Moulimbi et Kusekera dans la chefferie de Bwito au Nord Kivu après des affrontements toute la journée d'hier lundi entre les groupes armés locaux et les M23. Ces derniers auraient repoussé les groupes armés locaux. Hausse de prix de plusieurs denrées alimentaires ainsi que de produits manufacturés sur le marché de Mbujimayi. C'est une situation due à l'approvisionnement irrégulier des marchandises par la SNCC ainsi que l'enclavement de la province du Kasaï Oriental, nous dit l'AFEC sur place. Enfin, un incubateur de paix est installé à Kananga avec l'appui de l'ONU Femmes. C'est un espace créé pour aider la femme et la jeune fille à se former et s'auto-former sur différents mécanismes visant à consolider la paix. C'est l'œuvre de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Sa directrice pays, Nathalie Kambayi, est notre invitée dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle au Nord Kivu, où une accalmie est signalée ce mardi matin dans la région de Moulimbi et Kusekera, en groupement Tongo, chefferie de Bwito. Ce, après des affrontements toute la journée hier lundi entre les groupes armés locaux et le M23, précisément à Mudugudu, près de Moulimbi. D'après plusieurs sources dans la région, les rebelles du M23 auraient repoussé les Nyatura et conservé leur position à Rusekera, Moulimbi et Tongo. Un grand nombre de la population de Shongi et Rusekera a trouvé refuge à Moulimbi, à 3 km environ, une zone occupée par le M23, rapportent nos sources. Contacté par Radio Okapi ce matin, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu n'a ni confirmé ni infirmé ces informations. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume indique que les FRDC respectent le cessez-le-feu tel que recommandé par les chefs d'État à Luanda. Toutefois, ils sont en droit de se défendre et de sécuriser la population en cas d'attaque du M23 et de ses alliés, a-t-il déclaré. On reste au Nord Kivu. Les autorités locales de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo octroient 30 hectares à la communauté humanitaire. C'est pour leur permettre de réaliser des travaux de construction d'abris en faveur des déplacés des guerres exposés aux dangers et aux diverses intempéries, mais également pour libérer les écoles occupées, désengorger certains sites spontanés afin d'éviter les maladies d'origine hydrique. Dans ce reportage, Denise Loukesso nous parle de l'apport de quelques humanitaires.
Les travaux d'aménagement débutés en octobre dernier par la communauté humanitaire consiste à aménager les sites pour accueillir les déplacés qui sont exposés aux intempéries et autres dangers éventuels. Le Haut Commissariat pour le Réfugié, ACR par exemple, s'emploie à la construction des abris. À ce jour, au moins 1000 abris ont déjà été construits par cette agence onusienne sur les 6000 prévus. C'est pour accueillir dans un premier temps les personnes déplacées les plus vulnérables. Le but est de désengorger certains sites et de prévenir les maladies d'origine hydrique, indique les humanitaires. De son côté, l'UNICEF, à travers son partenaire Immigrant Lac, se concentre sur l'aménagement des lieux sanitaires avec la construction des toilettes et l'approvisionnement en eau. La MONUSCO, quant à elle, à travers son génie militaire, apporte son appui à l'ouverture de l'accès vers les sites longs d'environ 3 km. Environ 50 000 ménages des Rutshuru et Nyiragongo fuyant la guerre sont répartis dans plus ou moins une centaine de centres collectifs et sites spontanés parsemés dans le territoire de Nyiragongo. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Autre nouvelle, 8 présumés voleurs ont été brûlés vifs par la population en l'espace de 2 semaines dans la ville de Kalemi. D'après le président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou, qui s'est confié ce mardi à Radio Okapi, cette situation déplorable est consécutive à l'absence des patrouilles de la police. Pour Nathan Mugisho, des jeunes des quartiers s'organisent pour s'auto-sécuriser. Cependant, ils dénoncent la justice populaire et invitent la population à collaborer avec la police. Nathan Mugisho, président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou, est au micro de Paul Mounang.
Dans une distance de 2 semaines, comptez 8 personnes qui sont lâchement tuées, brûlées vives. Ceci s'explique par le fait que les services de sécurité semblent être dépourvus de moyens afin d'assurer la sécurité convenablement dans la ville de Kalemie. Et on constate même les véhicules de patrouilleurs s'en circulent plus, et ce qui a poussé que la population puisse s'auto-prendre en charge. Les jeunes dans les avenues commencent à organiser des patrouilles et qu'ils ne sont pas formés. Mais dès qu'ils tombent sur des présumés voleurs, c'est dès qu'ils tombent sur des personnes suspectes, sans toutefois passer à des vérifications parce qu'ils ne sont pas formés, et se mettent directement à tabasser, arriver même à tuer. C'est comme ça qu'on a en train de perdre certaines personnes par la voie de justice populaire. Mais ce que nous pouvons demander à la population, c'est de croire à la justice et de ne pas se faire justice. Une fois qu'ils attrapent un malfaiteur, au lieu de passer à les tabasser, à les tuer, il faut quand même que la population appelle les services de sécurité.
Au sud Kivu, la situation socio-économique devient intenable dans le territoire des Kalehés à l'approche des fêtes de fin de l'année 2022, conséquence des dégâts causés par les forêts, les fortes pluies du mois de novembre dernier dans cette partie de la province. Toutes les routes sont délabrées, les ponts cassés, les prix des denrées alimentaires et autres prennent de l'ascenseur. Delphin Birimbi, président de la société civile des Kalehés, appelle le gouvernement à sauver les habitants des Kalehés enclavés. Il est joint par Emmanuel Elamejou Akabedi.
C'est depuis les fortes pluies du 17 novembre 2022 que le territoire des Kalehés avait été totalement enclavé suite aux fortes coupures des routes, à l'occurrence de la RN2 Bukavu-Goma, le tronçon Minova-Kacheke, et RN3 Bukavu-Kisangani, le tronçon Mitihombo. Maintenant, pendant cette période où nous sommes en train d'approcher les fins d'année 2022 et début de l'année 2023, sur la question des routes, les motos ne circulent plus, les véhicules n'espacent plus, les populations du territoire de Calais sont dans une misère accablante, où la situation socio-économique sont très très difficiles, où une mesure de la farine de manioc coûtait 500 francs, aujourd'hui c'est à 1500 francs. Une mesure d'haricot passe de 2000 francs à 4000 francs. Et les marchandises et autres produits en provenance des villes comme de Goma et Bukavu n'arrivent plus dans les grandes agglomérations comme Nyabibwe, Boulambika, ainsi de suite. Il y a les gens qui sont en train de fréquenter maintenant le lac Kivu avec tous les risques pendant cette période pluvieuse où nous sommes en train de risquer même d'enregistrer des cas de noyade.
Situation similaire au Kasaï oriental, hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires ainsi que des produits manufacturés sur le marché des Mbujimayi. Les femmes ménagères ne savent plus à quel sein se vouer. La Fédération des entreprises du Congo FEC lit cette situation à l'approvisionnement irrégulier de marchandises par la SNCC ainsi que l'enclavement de la province du Kasaï oriental. Des explications avec Esther Ndalafina.
La flambée de prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité menace le panier de la ménagère de Mbujimayi depuis la semaine dernière. Espérance ne sait plus faire face aux besoins de sa famille pendant cette période de festivités.
Au marché, ça ne va pas. Les choses ont pris vraiment une dimension la plus élevée. Les cartons de poulet qu'on achetait à 50, 52 000, maintenant c'est à 85 000. Les colis de bons poissons salés qu'on achetait à 170 quelques. Aujourd'hui, c'est à 250, 230. On ne sait même pas comment faire pour les enfants et avec des festivités qui commencent d'ici là.
À la FEC Kasaï Oriental, on parle du mauvais état des routes et de l'approvisionnement irrégulier des wagons de marchandises par la SNCC.
Tout cela est dû au problème de routes et au problème de traction de la SNCC. La SNCC a passé de wagons et cette situation ne permet pas à la province du Kasaï Oriental de faire face à l'approvisionnement régulier.
Du côté de la SNCC, on affirme que la direction générale a pris toutes les dispositions pour acheminer avant la fin de l'année un nombre important de wagons contenant les denrées alimentaires ainsi que les produits de première nécessité. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, organise son congrès ce mardi à Lubumbashi. Nous retrouvons alors notre collègue Jean Gandou pour en savoir un peu plus sur place. Bonjour Jean Gandou, quelle est l'ambiance qui règne dans la capitale du Cuivre en rapport avec cet événement?
Bonjour Jacques-Yves. Moïse Katumbi est rentré ce lundi dans la soirée à Lubumbashi en provenance de Qatar, où il a été accueilli par une foule immense. Et ce matin, il a donné le coup d'envoi des travaux du congrès de son parti Ensemble pour la République, à son siège situé sur l'avenue Kamagnola dans la commune de Lubumbashi. S'adressant à l'assistance, composée notamment de délégations venues de toutes les 26 provinces du pays, de la diaspora ainsi que de partis politiques alliés et amis, il a indiqué que la RDC, malgré ses nombreuses richesses, voit sa population vivre l'enfer sur terre à cause notamment de la cupidité et de l'égoïsme. Il leur a demandé de privilégier la bonne gouvernance et l'unité mobilité pour botter l'ennemi de la RDC dehors. En rapport avec les souffrances dont les populations sont victimes à cause de la guerre, il a demandé au gouvernement de la République de s'occuper d'elle et à la communauté internationale de voler aussi au secours des personnes en détresse. Et il a fait part de son intention d'ébrayer la magistrature suprême pour restaurer la paix sur l'ensemble de la République. C'était avant de solliciter l'accompagnement de tous les membres de son parti dans cette démarche.
Alors Jean Gandou, depuis que Moïse Katumbi a claqué la porte de l'Union Sacrée, plusieurs personnes s'attendent à ce que les ministres nationaux et provinciaux membres de son parti démissionnent. Est-ce qu'il en a été question?
En tout cas, Moïse Katumbi ne l'a pas évoqué, peut-être que ça le fera dans les carrefours qui vont se tenir dès cet après-midi. En dehors de quelques députés nationaux et provinciaux, ainsi que des sénateurs et des membres du gouvernement Kiaboula, qui est de Ensemble pour la République, les autres ne sont pas venus, peut-être qu'ils rejoindront la capitale du Cuivre avant la fin du congrès. Toutefois, on a noté la présence des membres des cabinets de certains ministres concernés.
Alors, à quand donc la clôture de ce congrès?
D'après Moïse Katumbi, la clôture interviendra jeudi prochain. Et voilà tout, Jacques-Yves, pour ce qui est du congrès des Ensemble pour la République, qui coïncide avec le troisième anniversaire de ce parti politique. Et Moïse Katumbi en a donc profité pour demander à tout le monde de se souder derrière lui pour enfin gagner les élections prochaines.
Merci beaucoup, Jean Gandou. Continue à suivre pour nous ce congrès. Alors, on passe au Congo central. La secrétaire exécutive provinciale de la Commission électorale nationale indépendante s'est dit prête pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, conformément au calendrier électoral publié récemment par le président national de cette institution d'appui à la démocratie. Bernardine Kitondo indique que pour ce processus électoral, la population du Congo central sera rapprochée davantage des sites d'inscription grâce à un ajout de 264 centres d'inscription effectués à l'issue de la cartographie opérationnelle de la révision du fichier électoral. Selon Bernardine Kitondo, la population doit s'approprier cette opération afin d'accroître même le nombre de sièges de leurs représentants au niveau du Parlement. Le point avec Nana Plurichimambu.
Selon Bernardine Kitondo, secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale du Congo central, ce 24 décembre, les centres d'inscription sur l'ensemble de la province ouvriront leurs portes à 7 heures pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La même source affirme que plus de 1130 centres d'inscription sont mis en place sur l'ensemble du Congo central, sur les 870 ayant été utilisés aux échéances électorales précédentes, soit un ajout de 264 sites d'enrôlement effectués pour rapprocher la population de ces sites. Sur l'ensemble de la province, plus de 4800 membres des centres d'inscription presteront pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, parmi lesquels des présidents des centres d'inscription, des préposés à l'identification, des opérateurs de saisie et des personnes polyvalentes. Pour l'heure, le secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo Central a déjà acquis de sa direction générale les kits et machines d'enrôlement et de bureautique. Le déploiement de ces matériels et des membres des centres d'inscription commencera le 22 décembre pour l'arrière-province et le 23 pour la ville de Matadi, renchérit la même source. La CENI Congo Central, à travers les agents relais de sensibilisation et des agents messagers recrutés et formés par elle-même, intensifie la sensibilisation auprès de la population, l'invitant à s'approprier cette opération. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Entre-temps, fin officielle hier lundi de la dernière formation en cascade pour les opérateurs de saisie et d'autres membres des centres d'inscription dans les Grands Équateurs. C'est en prélude des opérations d'enrôlement des électeurs qui seront lancées ce 24 décembre. Les 5 provinces de la région comptent parmi les 10 où la CENI va organiser la révision du fichier électoral. Nous ouvrons aussi notre série de reportages sur l'enrôlement au Grand Équateur par l'état des lieux que nous dresse notre correspondant régional Paul Richard Mal.
Les bureaux de la CENI Équateur, Mongala, Nord et Sud d'Ubangi ainsi que de la Tchopa confirment la fin depuis lundi passé de la dernière étape de formation. Toutefois, des retardataires seront rattrapés, a indiqué le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud d'Ubangi. Benjamin Dongo signale aussi une augmentation du nombre des centres d'inscription, soit de 195 nouveaux CI par rapport à 2018. Pareil pour les autres provinces du Grand Équateur. Ce, en vue de réduire le trajet des électeurs, a expliqué Achille Bolekela, le chef de la CENI en Bandaka. Par ailleurs, le déploiement des matériels se poursuit aujourd'hui au niveau des antennes. Mais la CENI Mongala n'a réceptionné son dernier lot que ce lundi. Cela n'a pas empêché le CEP Benjamin Ebambé de rassurer.
Nous confirmons le 24 décembre l'assainement de rendement sur l'étendue de la Mongala. Et les matériels de Mongala vont arriver à Mongala de mercredi.
En revanche, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur déplore la qualité des opérateurs de saisie ainsi formés à la va-vite dans son fief de Bolomba, y compris les difficultés de transport de matériel qui risquent de retarder les opérations, a-t-il dit. Peter Lopose.
La CENI n'a pas même une moto à Bolomba pour arriver à Bokote, soit à Ngbondo, soit à Itote, là chez moi. Et on octroie un mois, selon la CENI. C'est un échec d'abord pour l'enrôlement. Nous demandons le prolongement de 3 mois.
Mbandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Éthiopie, la plus grande banque du pays, la Commercial Bank of Ethiopia, a annoncé hier lundi qu'elle avait repris ses opérations financières dans certaines villes de la région troublée du Tigré après un arrêt de plus d'un an. À la suite de l'accord de paix conclu récemment, les succursales que nous avons dans les villes de Shire, Alamata et Korem ont commencé à recevoir de l'argent envoyé de l'étranger et localement, et elles ont aussi reçu de l'argent en dépôt, a indiqué la banque dans un communiqué.
L'invité.
La directrice pays de l'ONG Femmes, main dans la main pour le développement intégral, Nathalie Kambayi, est notre invitée dans cette édition du journal. Sa structure a installé un incubateur de paix à Kananga avec l'appui de l'ONU Femmes. Ses ordinateurs, des ouvrages, des lois et autres sont mis à leur disposition dans cet espace. Selon Nathalie Kambayi, ce cadre est un espace créé pour aider la femme et la jeune fille à se former et s'auto-former sur différents mécanismes visant à consolider la paix. Elle s'entretient avec François Kadima. Suivez.
Madame Nathalie Kambala, bonjour.
Bonjour.
Un incubateur aujourd'hui au Kasai Central, l'incubateur de paix, pour quel objectif?
Oui, l'incubateur de paix aujourd'hui est créé d'abord dans le cadre d'un projet avec ONU Femmes, avec le financement de PBF, dans le cadre du projet renforcement de leadership de femmes et de filles dans la consolidation de la paix au Kasai et au Kasai Central. Donc nous allons installer 2 incubateurs, dont aujourd'hui celui qui vient d'être lancé, et la semaine prochaine nous serons au Kasai à Chikapa pour lancer le deuxième incubateur. Et aujourd'hui, cet incubateur est créé parce que nous voulons avoir un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix et aussi faire exister en elles l'envie de se former et de s'auto-former dans le cadre de s'impliquer pour la prise en charge ou la prise en compte du genre dans tout le domaine qui cadre avec la paix, la consolidation de la paix. Alors, notre souci est qu'elles puissent aussi avoir un espace ou un cadre de renforcement de leurs capacités où nous avons mis à leur disposition des ordinateurs et quelques ouvrages. Nous avons mis à leur disposition des lois, des traités, des conventions. Nous avons mis à leur disposition une connexion Internet 24 heures sur 24 heures. Nous avons mis à leur disposition un écran géant pour de conférences en ligne, pour de réunions en ligne, pour des échanges, des tables rondes. Elles peuvent même participer à une grande assise qui est organisée au niveau régional, au niveau international. Mais à partir de notre incubateur, les femmes, les jeunes filles ainsi que les hommes genrés ont la facilité d'accéder à toutes ces rencontres pour l'intérêt de la consolidation de la paix et aussi la participation de la femme à tout ce qui y va de son intérêt dans le cadre du genre.
Alors, c'est vrai, un incubateur de paix, vous offrez un espace pour les gens. C'est quoi la particularité ici? Quel est cet élément nouveau ou cet aspect nouveau que vous avez inclus?
C'est un cadre d'apprentissage. Donc, nous mettons à la disposition de femmes parce que souvent, on impute aux femmes la négligence dans la lecture, la négligence dans la recherche et la négligence dans toutes les actions qui y va de leur intérêt. Et aujourd'hui, ONU Femmes à travers FMDI a mis cet espace-là pour permettre à la femme de s'outiller dans le cadre de consolidation de la paix, dans le cadre de renforcement de sa capacité sur ses droits dans le cadre aussi d'être une actrice de paix et aussi dans le cadre de se former, de s'auto-former, de lire, de participer aux conférences, aussi faire des découvertes personnelles et aussi accéder à l'Internet gratuitement. Parce que vous savez, chez nous ici, on a un petit souci de courant, un petit souci aussi de l'Internet parce que c'est payant. La particularité encore est que l'accès à l'Internet, l'accès à tous ces ouvrages, l'accès à toute cette litanie de lois qui est à la disposition des personnes qui vont participer à l'incubateur, l'accès aux ouvrages, l'accès aux livres, c'est gratuit. C'est comme ça que pour nous, c'est une première pour le Kasaï Central de trouver un espace sûr de femmes qui va les former, un espace d'apprentissage, un espace d'auto-formation, un espace de lecture, un espace de recherche, un espace où elles peuvent trouver toutes les questions possibles, avoir des arguments qui peuvent convaincre pour être actrice.
Voilà, un espace, mais apparemment, il est réservé aux lettrés. Il y a des femmes qui ne peuvent pas également accéder à ce genre de choses. Est-ce que vous avez une possibilité de placer ou de trouver un moyen d'aider celles qui ne peuvent pas accéder à certains services?
Dans l'incubateur de paix, il y a deux formateurs. Et il y a aussi une personne qui est chargée de l'incubateur de paix. La personne qui est formateur ou les personnes qui sont formateurs, ce sont des gens qui donnent leur formation déjà à l'arrivée. La première question, c'est de se rassurer si la personne a l'accès facile à l'Internet. Est-ce que la personne sait manipuler l'ordinateur? Et ces personnes qui sont dans l'incubateur sont en mesure d'apprendre une personne pendant 2 ou 3 jours comment accéder à l'ordinateur et comment manipuler l'ordinateur.
Madame Nathalie Kambala, nous vous disons merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Ngoï. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République sous la coordination de Noéla Luzitu Kabambi et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour nous avoir suivis.